Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Ferdinand Martinet.
Salut Julien.
Content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse. C'est un podcast dans lequel moi je rencontre ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Ça fait quelques mois que nous vivons avec une épidémie du nom de Covid-19. Là on est en déconfinement, mais on ne sait pas vraiment quand ça va se terminer, ça va revenir, ça va repartir, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que nous échangeons à distance aujourd'hui grâce à la technologie qui a quand même parfois du bon. Si je disais que je suis content de te voir, hein, Ferdinand, c'est parce que toi tu es exactement la personne qu'il nous faut pour l'été qui arrive. Tu as fondé Chiloé avec un objectif en tête, démontrer que l'aventure existe partout en France.
Exactement, c'est très très bien résumé.
Facile alors, donc du coup on n'a pas besoin d'avoir peur de cet été chez nous, dans nos frontières françaises.
C'est effectivement ce qu'on se dit nous depuis 3 ans et du coup ça a encore plus de, c'est-à-dire c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, mais oui, il existe des très belles aventures pas très loin de chez soi, pas très loin des grandes villes de France, et c'est tout ce qu'on essaie de un peu de mettre en valeur depuis le début de l'aventure Chiloé. Et effectivement, dans cette période où on va dire les distances vont être un peu restreintes, où effectivement on va pouvoir moins partir ou plus partir à l'étranger, c'est une très bonne opportunité pour aller redécouvrir des choses à côté de chez soi, ou pour aller se mettre peut-être au tourisme durable, faire de l'itinérance, que ce soit à pied, à vélo. Je pense qu'on va essayer de rentrer un peu dans le détail ou prendre quelques exemples ensuite, mais c'est au moins une des bonnes nouvelles, si je puis me permettre, de cette période difficile et douloureuse pour beaucoup d'entre nous, c'est que on va, à mon avis, re-regarder à côté de chez soi et on va se rendre compte qu'il y a des merveilles et qu'il y a plein de très belles choses à faire. Voilà.
Ouais, c'est un super teaser déjà que tu nous fais, Ferdinand. Effectivement, on va avoir l'occasion de revenir et de parler de tout ça. Mais avant, moi, j'aime bien commencer en définissant la personne avec laquelle je suis en train de parler. Et toi, j'avoue que je savais pas. Comment on te décrit ? Tu es un aventurier de proximité ? Tu es un voyageur local ? Ou est-ce qu'en fait, tu mets plutôt en avant l'expérience entrepreneuriale de la création de Chiloé ?
Alors c'est une bonne question. Moi j'ai toujours pratiqué pas mal de sports outdoor depuis tout petit. J'ai bossé, moi j'ai fait des écoles d'ingénieur, j'ai 34 ans, j'ai bossé pas mal à Paris, j'ai bossé à Barcelone pendant quelques années où j'étais parti dans tous les bureaux d'une entreprise somme toute assez traditionnelle. Et puis à côté de ça, je passais tout mon temps dehors et arrivé un moment où je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas réussir à un peu à lier les deux, à la fois ma passion pour les, on va dire, pour les sports outdoor et puis un côté peut-être plus business ou entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'aventure Chiloé. Effectivement, aujourd'hui, ce qui m'anime beaucoup plus, c'est comment on arrive à structurer l'aventure qu'on a créée, comment on arrive à fédérer encore plus de monde autour de nous et surtout avoir de l'impact, c'est-à-dire se dire que les bonnes idées qu'on a et qu'on essaye de transmettre, elles puissent toucher plus de monde. Et puis, il y a aussi un peu ce sujet, on va dire, cet impact écologique, c'est que derrière cette idée un peu de micro-aventure, il y a l'idée aussi de faire sa part dans l'idée de réduire un peu nos empreintes carbone. Voilà.
C'est vraiment... À la fois sur la forme que prend Chiloé, c'est quelque chose qui existe à travers une newsletter, à travers un site internet qui référence tout un tas... de micro-aventures. Il y a un guide qui avait été édité, si je ne dis pas de bêtises, à proximité de Paris, hein, toutes les aventures à proximité de Paris. Mais vous faites aussi des événements. Il y a vraiment un écosystème Chiloé, en fait. Hein.
Ouais, exactement. En fait, nous, on a démarré avec cette simple idée ou ce simple concept de la micro-aventure. En gros, donc la micro-aventure, une aventure pas très loin de chez soi, qui demande peu de moyens et d'organisation, on va dire qui fait moins de mal à la planète. Et derrière ce concept de micro-aventure, on a commencé à tisser un peu notre toile d'araignée. On a démarré par la forme la plus simple possible, qui était une newsletter qu'on a envoyée il y a 3 ans à 50 copains. Et aujourd'hui, un peu plus de 35 000 personnes qui la reçoivent et qui la lisent de manière assez engagée tous les jeudis matins. Ça, c'est effectivement un de nos gros canaux de communication avec la communauté. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que les gens à qui on s'adressait via la newsletter étaient plutôt dans le même état d'esprit et étaient plutôt propices à se rencontrer. Donc, on a commencé à lancer comme ça pas mal de formats événementiels qui ont beaucoup évolué en 3 ans. Mais ça allait de petites micro-expéditions, par exemple descendre la Seine en stand-up paddle et aller dormir sur une île déserte, traverser le Vercors en ski pulka sur la trace des loups. Et en fait, depuis, on a effectivement 2 formats d'événements avec un événement phare cette année qui sera en septembre prochain, qui est le Festival Chiloé, qui sera à Paris à la Fondation Good Planet de Yann-Arthus Bertrand et qui est, si tu veux, le point de rassemblement de toute cette communauté qu'on anime depuis le début. Et puis après, tu as raison, on a décliné un peu ce qu'on faisait sur différents formats. Le premier format a été le guide Chiloé Paris, donc un guide papier qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies à Paris. On a commencé par Paris parce qu'on s'est dit qu'il fallait bien commencer quelque part et que c'était là que on va dire le bât blessait, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie demande de nature ou d'activité nature. Et puis, à mon avis, là où il y avait le max d'éloignement ou en tout cas peut-être le plus de freins à partir dans la nature. Et donc, on a démarré avec ce guide. Et depuis, on a un peu évolué, mais depuis, on a effectivement un site internet qui référence pas mal de micro-aventures en France. On a un peu une sorte de label de la micro-aventure. On part sur le terrain et on teste et on labellise des micro-aventures. Et on le fait beaucoup plus maintenant en partenariat avec des destinations françaises, des destinations touristiques, que ce soit les parcs naturels et régionaux, que ce soit certains offices de tourisme. Et voilà.
Ah, c'est très complet sur la forme, mais ça l'est aussi sur le fond, Ferdinand, parce qu'en fait, les micro-aventures que vous mettez en avant, si elles ont, comme tu le disais à la base, le côté aventure, le côté sportif, hein, souvent, tu parlais de stand-up paddle, il y a du vélo, il y a de la randonnée, c'est un peu pour tous les niveaux, mais il y a quand même l'idée de dépassement de soi derrière certaines de ces aventures. Derrière, en fait, c'est tout un éventail des possibles qui s'ouvre avec une découverte culturelle, une découverte de la biodiversité, de la faune, de la flore, gastronomique parfois. En fait, c'est vraiment l'aventure comme un prétexte de découvrir toutes les richesses qu'on a sur le territoire français.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, si tu veux, la raison d'être de Chiloé, c'était, on s'est rendu compte qu'on, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, on attendait, on va dire, nos vacances d'été et nos 3 semaines de vacances avec impatience pour souvent partir loin, vivre une vraie aventure. Et puis du coup on trouvait le temps un peu long dès qu'on rentrait, on se disait mince, il va falloir réattendre 1 an avant de repartir et on s'est justement, effectivement, on n'a absolument rien inventé, mais on s'est dit mais en fait voilà, si on arrive à partir plus souvent, on peut réussir à retrouver un équilibre un peu, on va dire, pro perso agréable, continuer à passer du temps dehors. Ça, c'était un peu le point de départ. Et comme tu dis, on s'est aussi rendu compte que notre génération, enfin tu vois, des jeunes actifs entre 25 et 45, de plus en plus connectés à des ordinateurs, de plus en plus déconnectés à la nature, même quand on est passionné de nature, si on habite en ville et qu'on a un job derrière un ordinateur, le temps passé dans la nature quand même est assez contraint. Et donc, est arrivé toutes ces réflexions et ces problématiques de se dire, mais en fait, comment on peut réussir à donner envie, comment on peut avoir envie de passer plus de temps dans la nature et de réapprendre la nature quand on a 30 balais, par exemple. Et donc, c'est un peu cette idée de copain des bois. Alors, ça a été un peu inspiré par les... Moi, j'ai jamais été scout, mais j'ai pas mal de copains qui ont été scouts. Il y avait effectivement cette dynamique de passer du temps dans la nature pour mieux la comprendre. Et donc, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de trouver un peu les clés, que ce soit dans la forme et dans le fond, comme tu disais, pour donner envie sur des petites choses toutes simples, via une activité. On parlait du stand-up paddle parce que c'est effectivement un moyen de déplacement, c'est sportif, mais c'est surtout un moyen de déplacement pour aller au contact de l'eau et puis découvrir un peu les environnements autour de soi. Mais c'est la même chose quand tu pars en rando, quand tu pars en ski de rando, par exemple, ou en vélo ou en canoë. C'est de trouver tous ces petits axes qui donnent envie aujourd'hui de mieux comprendre la nature. Et nous, notre mission derrière, c'est une phrase, alors c'est pas mal inspiré d'une phrase de Cousteau qui disait... En gros, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Et alors nous, on l'a transformé un peu dans notre mission, et on se lève tous les matins avec, c'est de dire comment on peut inciter les citadins à passer plus de temps dans la nature pour mieux la comprendre et mieux la protéger à terme. Et donc, c'est vraiment cette idée de réussir à se réémerveiller avec des petites choses toutes simples, que ce soit tu vois, d'aller cueillir des champignons, d'aller au Brame du Cerf au mois d'octobre, d'aller cueillir des plantes sauvages l'été quand on part en montagne et tout ce genre de choses.
Et là, donc, à t'entendre, grosse exclue, breaking news pour les Français, le fait de rester sur notre territoire et de ne pas avoir le droit de dépasser nos frontières avec les vacances d'été qui arrivent. Comme tu le disais au tout début, il me semble que tu as utilisé le mot opportunité. Hein. Ce n'est pas en fait une mauvaise nouvelle. Il y a vraiment quelque chose à creuser derrière ça. C'est une chance.
Oui, exactement. C'est le bon terme, c'est une opportunité. En fait, on se rend compte que, alors deux choses, on s'est rendu compte que pendant ce confinement, vu qu'on est encore, on vient tout juste d'en sortir, mais ça reste encore assez fébrile, on se rend compte que, je pense que beaucoup de Français se sont rendu compte que la nature, en tout cas, ou que l'extérieur, l'outdoor, nous manquait pas mal. Et puis surtout, on a retrouvé le temps de réfléchir à ce qu'on aimait, le temps de réfléchir à faire des choses soi-même, avec ses mains, etc. Nous, c'est marrant, par exemple, ce Chiloé, tu vois, on est un média outdoor, notre job tous les jours, c'est d'essayer d'engager la communauté et lui donner envie d'aller dans la nature. Je pense bien que du jour au lendemain, avec le confinement, on a absolument changé totalement la manière de travailler et puis surtout notre contenu. Et donc, on s'est dit, mais tiens, comment on peut réussir à parler de ces sujets de nature tout en restant chez soi? Et donc, ça a été un bon exemple, mais du coup, apprendre à faire des nœuds, apprendre à anticiper la météo qui fera en regardant les nuages, reconnaître tel champignon, en fait finalement toutes ces choses là on a eu pendant un mois le temps peut-être de plus y réfléchir ou plus s'y consacrer, et ça a été effectivement intéressant. Et donc on s'est aussi rendu compte, et nous on s'en rend compte de plus en plus parce que à quoi notre communauté a pas mal grandi ces derniers jours, ces dernières semaines, on reçoit énormément de demandes d'endroits où aller en France, d'idées d'aventure, de tous les sujets un peu autour de moins de 100 km.
Vous sentez un engouement là de la part des Français pour votre contenu en particulier?
Ouais, alors nous on le ressent de deux, trois manières différentes. Il y a effectivement de la part de notre communauté, on voit aujourd'hui que ce soit des nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur la newsletter, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. On a des chiffres qui ont largement doublé, triplé par rapport à ce que ça pouvait être avant cette période de confinement. On sent un intérêt, et ça c'est ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on sent un intérêt aussi au-delà de notre communauté, c'est-à-dire pour des gens qui peut-être voyaient la micro-aventure comme on va dire assez anecdotique, ou alors réservée à des gens déjà initiés à l'aventure. Et puis donc oui, ce concept de micro-aventure c'est sympa, mais je continuerai à me faire mes beaux voyages à l'autre bout du monde. On sent aujourd'hui un attrait en fait qui est peut-être arrivé d'une certaine manière par la contrainte, c'est-à-dire en fait aujourd'hui je n'ai plus la possibilité facilement d'aller à l'autre bout du monde. Du coup, je dois, on va dire, raisonner ou jouer avec les options que j'ai autour de moi. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on voit arriver des nouvelles demandes ou des nouvelles personnes intéressées qui nous disent, écoutez, c'est chouette. Alors, du coup, concrètement, tiens, la micro-aventure, j'en ai entendu parler, je vois ce que c'est à peu près comme concept, etc. Et alors, voilà, moi, qu'est-ce que je peux aller faire avec mes enfants le mois prochain sur un week-end de 3 jours? Qu'est-ce que je pourrais aller faire avec des copains que j'ai pas vus pendant toute cette période-là? Qu'est-ce que je peux aller faire en couple pour aller me changer un peu les idées de toute la zone de confort dans laquelle on était pendant ce mois-ci? Donc, on sent qu'il y a un bon engouement. Ouais.
Et comment on dépasse la durée qui est quand même dans le nom, hein, de la micro-aventure? Là, on a un été qui s'ouvre à nous, on nous promet des fortes chaleurs. Est-ce que, en fait, on peut reprendre certaines bases de la micro-aventure pour transformer complètement notre relation aux vacances, aux voyages?
Alors, c'est une bonne question que tu poses. En gros, c'est marrant, mais je sais que tu es assez... ce sujet te plaît pas mal, était surtout porteur de tout ce mouvement, mais nous c'est ce qu'on appelle le moins mais mieux. C'était un peu cette idée de sobriété que toi tu portes un peu aussi dans tes différents projets, c'est cette idée de peut-être partir moins souvent mais mieux, donc c'est peut-être tu vois, voyager moins mais mieux, consommer moins mais mieux. Et donc derrière cette idée de micro-aventure, encore une fois, micro-aventure ça n'est qu'un concept, c'est quelque chose qu'on fait tous, c'est-à-dire partir en week-end, partir une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour se changer les idées, se déconnecter, se reconnecter à la nature. Mais tu as raison, derrière cette idée, nous ce qu'on dit c'est qu'en fait voilà, peut-être partir soit un peu moins souvent, mais mieux préparer ses vacances, mieux les attendre, etc. Ou alors c'est pas une antithèse à ce que je veux dire, mais c'est pas partir plus, en tout cas, ou alors partir un peu plus souvent, mais en partant moins loin. Et à ce moment-là, c'est le concept de micro-aventure. Très concrètement, pour cet été, quand on parle de micro-aventure, sur le site internet ou dans le guide, il y a des aventures, ça va encore une fois de la demi-journée à la semaine complète. Je te prends l'exemple, aller traverser les Cévennes avec un âne, c'est une aventure qui se fait en une semaine, qui peut se faire avec des enfants, qui ne demande pas d'être hyper sportif, qui demande juste d'être un peu curieux et d'avoir envie d'aller dans la nature et de passer un bon temps dehors. Ça, tu vois, c'est une aventure qui peut largement... C'est une semaine de vacances. Ça peut être vrai aussi sur le fait de descendre la Loire en canoë et d'avoir un tronçon assez grand. Ça peut être vrai aussi, par exemple, en partant à vélo et en allant longer la côte atlantique à vélo, en allant traverser une région à vélo. Ça peut effectivement complètement faire office de vacances. Et puis, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va partir pour des temps longs cet été ou est-ce que ça va être plutôt des temps courts? Je pense que nous, on voit beaucoup de demandes sur des temps courts, c'est-à-dire que, contraint par la distance, en tout cas par ces fameux 100 km, on va, à mon avis, rechercher des petits moments plus fréquents, mais de reconnexion à la nature, surtout si on a passé beaucoup de temps en intérieur. On va vouloir essayer de partir un peu plus souvent. Je pense qu'on va tous aussi reprendre le boulot et donc je pense que les prochains mois vont être d'une certaine manière un peu chargés. Et du coup, encore une fois, le concept de partir sur des week-ends longs va être pas mal. Après, encore une fois, tout notre truc, si tu veux, c'est on raisonne moins en termes d'été que du reste de l'année. Moi, ce qui me passionne, c'est de me dire que en gros, on peut adapter ses activités aux saisons et tu vois tout au long de l'année. C'est un peu cette idée aussi que pour moi les vacances c'est pas que l'été et c'est pas tu vois dans les 4-5 endroits hyper prisés en France que peuvent être par exemple la Côte d'Azur, les côtes bretonnes pour tous ces exemples ou la montagne l'été. Mais par exemple ça va être d'aller un peu hors saison. Dans des endroits moins fréquentés, c'est ce qu'on trouve très intéressant, c'est justement d'aller plutôt faire la promotion de la Côte d'Azur l'hiver, de la Bretagne à l'automne, et puis peut-être, tu vois, du nord de la France ou de l'est de la France, par exemple, l'été. Donc ça va être essayer de trouver des contre-pieds, et c'est un peu ça qui nous anime, c'est toujours d'essayer d'aller là où les autres ne vont pas, c'est très, très, très marketing comme phrase, mais c'est en tout cas comment on peut répartir un peu mieux les flux. Comment on peut aller chercher des destinations qui sont un peu à contre-pied de ce que peuvent faire une grande partie des Français.
Ouais, je comprends. Je trouve que c'est hyper intéressant ta remarque sur le fait que on va sans doute changer de relation au rythme de notre manière de consommer les vacances. Et là, en l'occurrence, ça nous permettrait sans doute de nous les approprier plus. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, moi, je leur recommande vivement d'aller voir vous avez plus de 250 micro-aventures hein, référencées sur chiloé.com. Ça donne une belle idée de, en plus, il y a une carte de France qui est bien faite. Vous arrivez à bien raconter les histoires. Les photos sont belles. Il y a un texte qui entraîne, bref, c'est assez dépaysant et la simple lecture de votre site, je trouve que c'est un début de micro-aventure, si je peux le dire comme ça. Si tu devais nous en citer deux, trois qui sont un peu phares et surtout, en fait, moi, c'était ma dernière question, Ferdinand, avant de passer à l'autre partie, mais qu'est-ce qui, derrière ces expériences phares, à la relecture de ces souvenirs vraiment mémorables, fait que pour toi, une aventure, un voyage est quelque chose d'extraordinaire?
Alors, il y a plusieurs questions. Tu parlais effectivement de deux, trois, on va dire, micro-aventures phares. Moi, plutôt que de citer comme ça et de faire un album à l'après-verse, c'est plutôt d'essayer de se dire où est-ce que je ne suis pas encore allé? Quel peut être l'opposé de là où je vais d'habitude. Par exemple, si je vais très souvent à la mer l'été, est-ce qu'on n'irait pas à la montagne cette année? Est-ce qu'il y a une activité que j'ai pas encore pratiquée que j'aimerais découvrir? Du coup, ça va répondre un peu à ta deuxième question. Mais donc, par exemple, de se mettre à l'itinérance vélo, partir en randonnée pendant en gros plus d'une journée, deux, trois jours avec est-ce qu'il y a du bivouac au milieu, que ce soit encore une fois accompagné ou pas, ou avec par exemple un refuge, etc. Donc c'est se poser un peu ces questions déjà de où est-ce que je vais aller, et effectivement il y a pas mal de réponses sur le site internet, et ensuite qu'est-ce qui fait qu'en gros je vais passer un bon moment, qu'est-ce qui fait que c'est une micro-aventure. Nous c'est marrant, on a effectivement une charte des micro-aventures Chiloé. Et une bonne micro-aventure, c'est une micro-aventure qui est sportive. Sportive, non pas dans le sens performance, mais plutôt dans le sens faire une activité sportive. Et donc, encore une fois, je le redis, ça peut être la marche, le canoë, la pêche à la mouche, le vélo. C'est une micro-aventure qui est apprenante. Et apprenante dans le sens, en fait, je vais apprendre quelque chose. Est-ce que je vais découvrir un nouveau lieu? Est-ce que je vais rencontrer des gens? Est-ce que je vais apprendre un nouveau savoir-faire? Est-ce que je vais progresser dans une activité? Est-ce que je vais progresser dans mon autonomie, dans ma compréhension de la nature, dans ma capacité à emmener demain des amis ou mes enfants à aller dans la nature, hein? Donc ça, c'est apprenant. Et puis, la troisième partie, c'est la partie locale. Et donc, c'est se dire, voilà, comment je peux transformer son regard pour aller vivre une grande aventure, une grande expérience à côté de chez soi. Et du coup, ça n'est qu'un exercice dans le regard, c'est qu'on peut regarder ce qu'on a autour de soi d'une manière un peu, voilà, bah oui, c'est sympa, mais c'est pas incroyable, c'est moins bien que, je sais pas, moi, les vagues dans le Cotentin sont moins bien que les vagues à Bali, les montagnes qu'on a en France sont moins impressionnantes que les rocheuses au Canada. Et en fait, mettons-nous dans notre regard qu'il y a des choses très belles à côté de chez soi. C'est juste dans le regard. Et que du coup, on peut vivre une aventure complètement incroyable en étant à côté de chez soi. Et ce qui fait une bonne aventure ensuite, c'est effectivement, en tout cas moi, ce qui est important pour moi, c'est de partir avec, que ce soit des copains, que ce soit ma famille. Ça, c'est effectivement primordial. Ça va être de, je le redis moi, c'est de rencontrer du monde. J'attarde beaucoup d'intérêt, tu vois, au fait de rencontrer du monde pendant cette période-là. Et puis après, ça peut être une bonne bouffe, ça peut être une bonne bouteille de vin qu'on va s'ouvrir avec un beau coucher de soleil. Voilà, c'est ça qui fait une bonne micro-aventure.
Ouais, puis j'entends aussi le fait de sortir de ta zone de confort. Hein. J'ai l'impression que le fait de faire quelque chose de nouveau pour toi, ça va aussi marquer ton imaginaire.
Mais tu vois, c'est marrant sur l'imaginaire. Un journaliste avait un peu résumé en disant « Chiloé rend sexy, rend plus sexy le Jura que le Costa Rica ». Et en fait, tout ça est qu'une histoire d'imaginaire. Dans notre imaginaire, surtout notre génération qui a été nourrie, biberonnée, tu vois, aux longs voyages de Nicolas Hulot, aux expéditions Cousteau, puis on est la génération Erasmus, on est quand même parti très facilement, très tôt, partout en Europe. Donc effectivement, c'est tous les low cost, les avions pas chers, etc., qui nous ont permis d'aller partout dans le monde. Ben en fait, nos imaginaires, ils sont construits là-dessus. Donc en fait, aujourd'hui, on se dit, mais pour vivre des vacances réussies ou une aventure réussie, c'est forcément un truc très loin. Dans une autre culture, dans un autre pays, avec une autre langue. Alors, c'est vrai, c'est absolument chouette tout ça, mais en fait, je pense que, hélas, avec la crise écologique qui va arriver, on en parlera peut-être, et je sais que toi, t'es un fervent acteur de ça, et tu nous as aussi beaucoup ouvert les yeux là-dessus, c'est comment, je pense qu'on va être obligé de transformer la manière dont on part en vacances, et du coup, on va devoir recréer un imaginaire, et donc retrouver autour de chez soi des choses assez incroyables. En tout cas, voilà, j'aime bien cette idée de créer un imaginaire et donc de se dire, en fait, je peux aller faire une session de surf dans le Cotentin qui est absolument aussi géniale qu'à Bali. Et je finis juste sur un petit exemple pour citer du coup Thibaut qui est le cofondateur avec qui on a cofondé Chiloé. Thibaut, il a une histoire assez incroyable et géniale. Il a traversé, alors en gros, il est revenu du Cambodge à Paris en tuk-tuk. Donc, il a fait Phnom Penh Paris en tuk-tuk, une aventure qui, à l'époque, il était en gros, on va dire, encore étudiant ou quasi, encore, on va dire, jeune étudiant. C'est une aventure qui a duré 3 mois, qui lui a pris un paquet de temps, quasi autant presque en préparation. C'était une aventure avec un gros budget et qui, effectivement, je pense, a marqué solidement aujourd'hui sa personnalité et ce qu'il recherche dans ses expériences. Et puis, il y a un an ou 2 ans, Tib, il se faisait un peu chier un feu rouge à Paris. Il se demandait mais comment il pourrait un peu remettre du sortir de sa zone de confort. Et tu vois, il a traversé en gros la France à vélo. Il est parti du sud-est pour rejoindre la Bretagne. Ça lui a pris 10 jours. Le temps de décision était probablement 5 minutes à un feu rouge. Le temps de préparation de l'ordre de peut-être quelques heures à regarder à peu près l'itinéraire sur Internet. Et il s'est rendu compte que le niveau de kiff à l'issue de ces deux expériences, le niveau de kiff, c'est-à-dire à la fois sur le bien-être, sur je sais pas moi, la confiance en soi, sur le plaisir, etc., était absolument identique entre ces deux aventures. Et donc le message que j'essaie de faire passer, si tu veux, derrière cette métaphore, c'est que on peut vivre des choses absolument incroyables à côté de chez soi, en partant de chez soi, avec très peu de moyens, avec juste un peu de matière grise et de jus de cerveau. Et ça, c'est chouette parce que du coup, c'est aussi une bonne réponse pour la crise écologique. Et encore une fois, je serais ravi si on va sur ce terrain-là, mais en tout cas de montrer que, eh ben, effectivement, en prenant un peu moins l'avion, on va réussir à faire sa petite part du colibri et à réduire un peu son empreinte carbone.
Merci Ferdinand pour toutes ces ces perches hyper enthousiasmantes que tu nous tends. On se fait une pause parce que tu vas nous aider à ouvrir une bulle d'inspiration avec une lecture. Tu es venu avec un livre. Moi, chaque fois, j'aime à donner la possibilité à mon invité du jour de montrer qu'il y a aussi dans les livres, dans les récits, des choses qui nous touchent et qui nous mettent en mouvement. Et toi, du coup, il me semble que tu es venu avec Sylvain Tesson, hein, c'est ça ?
Effectivement, Sylvain Tesson, il a écrit pas mal de bouquins très chouettes. Moi, j'ai un bouquin en particulier qui s'appelle « Sur les chemins noirs », qui m'a pas mal marqué. Ça, c'est d'ailleurs, ça correspond à peu près aussi à la création de, au lancement de Chiloé. Alors, très rapidement, du coup, ce bouquin « Les chemins noirs », c'est du coup Sylvain Tesson qui traverse la France à pied, en gros, de diagonale. De souvenir, c'est, je crois, du Mercantour, donc sud-est de la France, vers le Cotentin. Et les chemins noirs, si je dis pas de bêtises, c'est des anciens chemins alors ruraux, c'est des chemins qui n'existent plus sur les cartes aujourd'hui, mais on va dire c'est des chemins un peu de traverse ou que plus personne n'utilise et qui sont souvent plus tracés ou plus utilisés. Donc c'était pour lui une super manière de se replonger, on va dire, dans la France profonde. Gouac et Humann m'avaient rejoint à Barneville-Carteret et nous avions monté les tentes devant les îles anglo-normandes sur l'avancée du cap du Rossel, protégé par des murets de pierre eux-mêmes couronnés de genêts. Les parcelles portaient un nom qui convenait au bivouac de sentinelles, le corps de garde, les nuages. Puis la nuit masquèrent les îles. Dès l'aube, Gouac, bardé d'appareils photo, tenta de ne pas laisser le moindre reflet de la Manche échapper à son objectif. Humann, lui, se demandait pourquoi on en faisait tant avec le Cotentin alors qu'il y avait la Crimée. Et moi, je trouvais désinvolte d'avoir couru le monde en négligeant le trésor des proximités. Gouac convenait qu'il y avait le signe d'une désorganisation mentale à se sentir des îles couriles quand on venait de Cambrai. Moi, dictateur, ajoutait Humann, je forcerais chaque enfant à traverser la France à pied. Cela prémunirait de l'obésité et chacun connaîtrait le nom des plantes. Et les hommes politiques, dit Gouac, s'ils marchaient quelques semaines, ils seraient élus. Cela aurait pour eux un effet Lazare. Clopiner sur les chemins noirs m'avait mené par un pays qui ne paraissait pas très disposé au changement. C'est l'inconvénient d'accuser le poids des ans. Comment la France pouvait-elle s'avancer vaillante dans l'époque mondialisée alors qu'elle se croyait encore un destin antique ? Aucun fossile n'est jamais mûr pour les métamorphoses. Demande-t-on aux conservateurs de la salle des trésors de s'occuper des affaires internationales ? Depuis les zones tropicales jusqu'à l'Arctique groenlandais, émergeaient des nations disposées à devenir chefs de gare planétaires et épiciers globaux. Pour nous, qui nous pensions encore au centre du monde, investis d'un ordre de mission universelle, la mondialisation n'était pas une aubaine. En première ligne, la campagne subissait les affres des mutations, les paysans manifestaient leur désarroi devant un marché qui prenait les dimensions du globe. On les comprenait, quand on a cultivé un terroir pendant 2000 ans, il n'est pas facile de participer à la foire mondiale.
Merci Ferdinand pour cette bulle d'inspiration. Hein. On a pris de la hauteur avec toi. On a marché un petit peu avec Sylvain Tesson. C'est un sacré livre. Je l'ai lu il y a aussi un an. Là, il m'avait pas mal travaillé. Hein. Tu voulais nous livrer quoi dans cette lecture, toi ?
Écoute, c'est du haut vol en termes de littérature. Moi, je suis fasciné par sa manière d'écrire et surtout sa capacité à raconter des choses qu'on ressent tous, mais qu'on serait bien incapable de transmettre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Moi, je trouvais désinvolte d'avoir couru le monde en négligeant le trésor des proximités. Et tu vois, c'est vraiment cette idée et qu'on a un peu parcouru là au long de notre discussion, c'est Sylvain Tesson qui a voyagé dans à peu près dans tous les pays, qui a vécu des aventures absolument incroyables, arrive à s'émerveiller en traversant la France à pied. Et c'est vraiment cette idée que je trouve intéressante et voilà que j'invite tout le monde un peu à essayer de réfléchir dessus, c'est de changer notre regard sur ce qui nous entoure et de se fixer de nouveaux défis et de nouvelles aventures en partant en bas de chez soi, pas très loin de chez soi, sans forcément aller très loin, de prendre l'avion et très longtemps.
Eh ben, je vais t'en proposer une autre d'aventure. Tu vas même pas avoir besoin de te lever, mais on va quand même partir ensemble, Ferdinand. On va partir ensemble en 2030 glorieuse. Je pense que t'es jamais parti aussi loin de toute ta vie. Et pourtant, ça y est, on y est déjà. Là, le temps que je te dis ça, on y est. On est en 2030 glorieuse dans un monde où, contrairement à ce qu'on nous propose en général comme futur, on n'est pas dans une dystopie, mais dans une utopie. On peut partir du principe qu'on a réussi. On a réussi quoi? Je ne sais pas. Et c'est toi qui vas nous le dire. Mais voilà, on est en 2030 glorieuse dans un monde où les choses vont mieux. Tu as fermé les yeux, toi, pendant tout ce voyage et tu les rouvres 10 ans plus tard. Qu'est-ce que tu vois?
Alors, j'espère que je te vois en face de moi et qu'on n'est pas derrière nos écrans d'ordinateur avec un casque sur la tête. C'est une super question. Et alors, donc, j'essaie de me laisser aller et de me projeter. Alors, moi, je me vois très, à titre très personnel, je me vois à la campagne, dans la nature, avec du coup ma famille, avec des enfants. Je vois autour de moi pas mal d'amis qui aussi ont fait peut-être un choix de retour à la nature et d'un certain confort de vie. Je vois aussi, non pas un retour en arrière, mais en tout cas une simplification de nos modes de vie sur notre manière d'aller. Alors c'est peut-être pas, il y aura peut-être pas la bouteille de lait qui sera déposée tous les matins en bas de notre porte, mais moi je serais très heureux si effectivement on pouvait revenir à des choses simples, d'être capable de cultiver une grande partie des choses chez nous, de faire appel aux compétences de ses voisins et des gens autour de soi pour réparer, bricoler, faire certaines choses. Et je serais aussi très heureux si tu vois, c'est très français, mais en tout cas, si ça pouvait être un peu décentralisé. Moi, je suis encore très surpris, et je le vois aussi dans le business, tout est quand même encore très centré autour de Paris. Je pense que pas mal de gens qui nous écoutent aussi peut-être habitent à Paris ou ont des jobs à Paris, peut-être beaucoup se posent la question, se disent mais oui, mais en fait si je m'éloigne de Paris, je risque peut-être de ou pas trouver un aussi beau job ou de perdre mon job, etc. Et j'espère en tout cas qu'on sera peut-être dans un monde où on arrivera à par exemple bosser 3 jours plus à la campagne ou dans la nature et aller peut-être bosser 2 jours en ville. J'espère qu'on arrivera à désengorger un peu les centres-villes et puis que les gens retourneront un peu habiter dans la nature, voilà.
Donc c'est fait, hein. Toi là t'es à la campagne, t'es entouré de tes amis, de ta famille, et on a réussi en 10 ans à décentraliser la France avec des cœurs un peu partout sur le territoire, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus désirables, qui permettent à chacun d'avoir une vie animée, une vie saine, une vie plus locale aussi, j'ai l'impression. Je sais pas si tu te souviens, Ferdinand, on était en 2020, 10 ans en arrière, à un moment où ça y est, nos frontières étaient fermées, notre relation aux vacances, au voyage complètement chamboulé. Ça, c'était il y a quelques temps. On a réouvert les frontières depuis. Tu peux me raconter ces 10 dernières années? Est-ce qu'on est retombé dans le travers des avions à gogo avec l'urgence écologique qu'on connaît? Ou est-ce que plutôt que de s'asseoir dans un fauteuil d'avion, on s'est assis sur des, je sais pas moi, des selles de vélo peut-être?
Des ânes. Écoute, en tout cas, moi, je suis très optimiste. Et donc, si je fais cet exercice arrière comme tu dis de le faire, eh ben je suis hyper heureux en 2030 de voir que depuis 2020 tout est allé dans le bon sens, que les choses se sont un peu apaisées, que les choses se sont simplifiées, que on n'est pas comme tu dis et c'est la super nouvelle, les gens ne sont pas revenus en arrière, c'est-à-dire un peu sur l'avant par exemple Covid, que les gens continuent à travailler en partie de chez eux. Mais dans des conditions aussi quand même somme toute agréables, que les gens ont, c'est la bonne nouvelle, en 2030 les gens ont un meilleur équilibre pro-perso, ils passent plus de temps avec leurs enfants, passent plus de temps avec leurs amis et leurs familles, que les échanges, c'est une super nouvelle, les échanges aussi mondiaux se sont un peu, non pas ralentis dans le mauvais sens du terme, mais se sont un peu pas normatisés, mais en tout cas sont devenus un peu plus intelligents, et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, moi, ce que je sens en 2030, en tout cas, ce que je vois là autour de moi et ce que je trouve génial, c'est le fait que les citoyens sont plus impliqués sur les décisions, alors qui les concernent sur leur vie, mais aussi sur, on va dire, la politique. Et c'est une très bonne nouvelle 10 ans après 2020 que de voir du coup les citoyens prendre part aux décisions de leur ville, de leurs entreprises et d'une certaine manière de leur vie, c'est-à-dire d'être plus acteurs de leur vie ou du changement qu'ils aimeraient voir. Et ça, c'est une très belle nouvelle.
À l'époque, on nous promettait quand même beaucoup de contraintes et ces contraintes, on les redoutait. Tu le disais tout à l'heure, il y a une part de désirabilité dans ce qu'on fait et cette désirabilité, on a un contrôle dessus. Le fait d'avoir mis un tirage au sort sur les billets d'avion, le fait d'avoir limité les déplacements des Français à tant de kilomètres par an en 2030 glorieuse, comment on a pu rendre ça désirable ?
T'es allé loin là, dans la réflexion. Pas mal le coup de la loterie ou des nombres de kilomètres limités. En fait, c'est venu tout naturellement avec, hélas, la concrétisation du réchauffement climatique. C'est-à-dire que je pense que, au-delà du désirable ou pas et de tout cet imaginaire qu'on s'est construit sur voilà, retrouver de l'émerveillement à côté de chez soi, d'être dans le local, de mieux questionner ses choix de consommation de vie, etc. Il y a aussi, à mon avis, ces dernières années, on a vu concrètement les effets du réchauffement climatique. Et donc, chacun a compris qu'à son niveau, il pouvait faire sa part un peu du colibri. Et du coup, c'est en ça aussi que c'est devenu évident. Et donc, je pense que naturellement, on s'est aussi un peu auto-réfréné sur le nombre d'avions qu'on prend, sur le nombre de déplacements en voiture qu'on fait, sur certains types de consommation. Et donc, je pense que c'est voilà, je crois que c'est venu grâce aussi à cette, hélas, en tout cas à cette visualisation de l'impact du réchauffement climatique. Et puis de l'autre côté, bien entendu, ben je pense que c'est lié aussi à un discours comme celui de Chiloé et beaucoup d'autres acteurs qui rendent accessible et sympa le fait de modifier, en fait, la sobriété. Voilà, en fait, je crois que c'est vraiment celui-là, c'est on aura réussi en 10 ans à rendre sympa la sobriété. Parce que la sobriété, pour certains, ça veut dire plus de contraintes, ça veut dire moins de choses, ça veut dire moins de liberté, ça veut dire je sais pas, moins de flexibilité, etc. Et alors, en fait, on va se rendre compte que ben non, la sobriété, c'est plus de simplicité, plus de facilité, on est plus apaisé dans ses choix, dans ses réflexions, peut-être moins de choix. Et du coup, moins de choix égale plus d'apaisement. Et donc vraiment cette idée de rendre cool et sexy la sobriété et ça n'est rendu possible que par des acteurs comme toi notamment et comme pas mal d'autres que tu interviews qui rendent chouette cool à travers un discours qui est pas du tout moralisateur, qui est plutôt un discours hyper responsabilisant et puis souvent avec une petite dose d'humour et puis on se prend pas trop au sérieux. Peut tous, chacun, à son échelle, faire des choix forts et qui ont de l'impact.
Et donc, en 2030 glorieuse, le train de nuit est devenu sexy. Hein. Il y a eu une série qui a été tournée dans un train de nuit. Il y a eu des concerts qui ont été donnés dans des trains de nuit. Tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent faire en sorte que dans les imaginaires, monter dans un train de nuit pour voyager quelque part, ça peut redevenir l'expérience extraordinaire.
Mais tu as tout à fait raison. En 2030 glorieuse, Beyoncé et Jay-Z se sont mis à la pêche à la mouche. Et sur leur Instagram, on ne peut voir que de manière très impressionnée leur nouvelle passion. On se rend compte que le président français passe tous les mois environ une semaine par mois à marcher, randonner, prendre le temps de réfléchir, etc. Si le président le fait, pourquoi les chefs d'entreprise et puis chacun le ferait pas aussi. Et puis
oui, je me rappelle que c'était un candidat qui disait bah oui, bon bah alors il y a 10 ans on avait des gens qui supposément étaient en marche et bah lui il a décidé de vraiment marcher. Hein, c'est ça, c'était sur cette idée de concrétiser les choses, hein, je crois, ce président qu'il a eu comme ça, cette rando à travers la France.
Exactement, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque on avait vu passer une super photo de lui en tenue de rando qu'on avait relayé. C'est un super exercice de se projeter. Et en tout cas, tu as raison. Tu parlais par exemple des séries. Je te prends un exemple. T'as des super émissions à la télévision. Et en 2030, il y aura des émissions sur le service public, sur France 2. Il en existait déjà en 2020. Sur des voyages, sur des aventures en France. Je pense à En Terre Connue. Alors, je sais jamais le titre, qui est une émission par Rappel de Casablanca, qui est un type assez génial et qui a fait notamment une super émission sur Besson. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'émissions comme ça, avec les mêmes moyens que des super tournages à l'étranger très loin, sur des choses toutes simples, en France, en Europe. Alors on parle de la France, mais on peut aussi parler de ce qu'il y a autour de soi. Et donc, il y a aussi des magnifiques choses. On a beaucoup de choses en France, mais il y a aussi...
Pour revenir un peu en 2030 glorieuse, on a parlé du voyage, on a parlé plein de choses. Tu nous as même... T'es même sorti de ce giron, j'ai bien aimé ça, l'idée de se réancrer localement et de participer plus activement à la vie du quartier, à la vie politique. Il y a d'autres manières de voyager aussi, Ferdinand. Tu nous as parlé de Sylvain Tesson. En fait, le voyage, l'aventure, elle peut se mener toute l'année. Qu'on ouvre des bouquins, mais toi aussi, ton aventure entrepreneuriale, en fait, c'en est un bel exemple, non ?
Ah, je suis content que tu m'emmènes sur ce terrain. Moi, ce qui effectivement m'anime beaucoup plus que la rando que je vais faire ce week-end ou... Le type de vacances que je vais faire cet été, c'est clairement l'aventure entrepreneuriale dans laquelle on est et comment on arrive à construire un beau projet qui a de l'impact et puis qui arrive à fédérer des gens assez chouettes et tout un écosystème assez chouette. De toutes les aventures, celle que je vis avec Chiloé est la plus grande. Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui aspirent à l'être, c'est effectivement une aventure hors norme, en fait, avec ses grandes joies et puis ses grandes déceptions, avec des difficultés, avec voilà. Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une aventure. Et en fait, je pense que quand on aime, de la même manière que quand on part faire le Dôme des Écrins en ski de rando, qui est un super beau 4000 pas très loin de Grenoble, et ben il y a des moments faciles et des moments difficiles. Et puis les conditions qu'on trouve sur le chemin sont pas toujours... celle qu'on souhaite, et puis certains auront un petit lever de soleil un peu incroyable, d'autres devront revenir trois fois avant d'avoir ces conditions exemplaires. Et donc c'est exactement, c'est une très belle métaphore que tu fais. Moi je suis très heureux aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a démarré à Chiloé, on est une petite équipe de 5 personnes, on a une patate incroyable quand on se lève le matin et qu'on va bosser, et on se rend compte qu'on peut, et ça c'est très important, et moi c'est un alors les conseils sont faits surtout pas pour être écoutés, mais je le dis à tous ceux qui ont envie d'être acteurs et de se lancer dans quelque chose sans forcément savoir quoi et par où commencer. Plutôt que de trouver la bonne idée, je pense qu'il n'y a pas de bonne idée. Enfin, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Puis c'est pas parce qu'il existe déjà quelque chose qu'il ne faut pas le faire. Je crois surtout qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que on aime faire et où est-ce qu'on a de l'impact. Et si tu veux, moi c'est un peu le cheminement personnel qui m'est arrivé, c'est que j'ai toujours voulu entreprendre depuis une dizaine d'années. Chaque fois, je montais des projets. En tout cas, c'était surtout sur le papier. Pas beaucoup de projets voyaient le jour. Puis à un moment, j'ai pris le problème inverse et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui est important pour moi? Et en faisant toute cette série de réflexions, il y a pas mal d'outils sur Internet pour le faire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 piliers qui étaient essentiels pour moi. Le premier, c'était la nature. Donc effectivement, ma passion des sports outdoor, j'en ai pas trop parlé, mais en tout cas, c'était un élément hyper important pour moi. Il y avait l'aspect créativité. Moi, j'ai besoin d'être créatif et je n'étais pas du tout dans mon job avant. J'étais ingénieur, puis consultant, puis manager. J'étais pas du tout créatif. Ma seule créativité se résumait à des tableaux Excel très compliqués que je ne comprenais même plus. Et du coup, j'avais besoin de retrouver de la créativité. La créativité, chez Chiloé, ça a été sur la partie où tu parlais souvent de la forme. C'est ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est la forme des choses qu'on fait, que ce soit la partie artistique, graphisme, etc. Et puis il y a beaucoup de choses que beaucoup de choses que je me suis un peu découvert tout au long de l'aventure. Donc ça c'est la partie créativité. Puis enfin la troisième c'est la partie business. Moi j'ai toujours été en tout cas le but de l'aventure Chiloé a aussi un but on va dire commercial. C'est une entreprise et donc on veut en vivre et on veut surtout en faire réussir à fédérer encore une fois je te disais tout un écosystème, soit une équipe, des prestataires et des fournisseurs autour de ce projet. Donc business, nature, créativité. Et en fait, ces 3 piliers, je les retrouve aujourd'hui dans Chiloé et je sais que je les retrouverai dans tous les autres projets entrepreneurs que je vais lancer parce que je pense que quand on a pris goût à l'aventure, on a envie d'en vivre de nouvelles. Et donc, il y aura, j'espère, plein de petits ou plein de nouveaux projets entrepreneuriaux, notamment qui seront nés en 2030. Mais voilà, très important, effectivement, la plus belle des aventures aujourd'hui, c'est l'aventure entrepreneuriale. Et puis après, pour la petite... anecdote, moi je vais être papa le mois prochain et je pense que je vais me faire taper sur les doigts si je dis que c'est pas ça la plus belle aventure, mais je pense que la plus belle aventure qui va m'arriver dans les prochaines années, ça va être clairement celle d'être père et d'avoir du coup des petits micro-aventuriers à la maison et d'essayer de leur transmettre tout ce qu'on raconte là, d'essayer de concrètement leur transmettre Voilà, donc ça c'est la prochaine aventure.
En fait, quand je t'entends, je me dis que tout à l'heure tu me parlais de ce qui faisait du voyage une réussite, la rencontre avec les gens, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait d'être proche de la nature, et je me rends compte qu'en fait tu as fait de ta vie un voyage, que tu sors de ta zone de confort par l'entrepreneuriat, que tu réussis à rester en contact avec la nature et que ça te permet d'aller rencontrer des gens différents, de te mettre dans des situations différentes parce que t'es prestataire, parce que t'es collaborateur, t'es partenaire, c'est aussi ce qui fait que les marqueurs de réussite de ton voyage sont les marqueurs de réussite dans ta vie, et pour ça bravo. J'ai une dernière question pour toi, Ferdinand. La route, elle est longue, on a encore une dizaine d'années devant nous avant 2030 glorieuse. C'est un exercice qui tente de proposer un cap, hein. Je pense que personne nous en voudra si les choses ne se passent pas exactement comme elles étaient prévues, mais toi, en tant que micro-aventurier, tu le sais bien, il faut à minima, quand on part en aventure, se fixer une destination, et puis on verra bien comment on l'atteint, cette destination. Les gens là qui nous écoutent, ils vont revenir dans leur quotidien ensuite, et puis ils vont être happés à nouveau par la vie. Quel serait, toi, le conseil du premier pas à faire pour marcher vers le cap des utopies réalistes qu'on a ouvert ensemble?
Le premier conseil, c'est vraiment c'est d'écouter ses guts, donc en gros son feeling ou ce qu'on ressent. Et c'est marrant, tu vois, je pense que notre société ou la société dans laquelle on vit accorde pas suffisamment d'importance au ressenti. On est souvent dans le rationnel. C'est-à-dire que tu vois, je ressens quelque chose avant de prendre une décision, je le sens bien, je le sens pas bien. Mais en fait, du coup, les gens vont dire, mais rationnellement, est-ce que c'est bien, pas bien, tu vois, est-ce que c'est positif, pas positif, est-ce que c'est à notre avantage ou pas? Et donc, en fait, le vrai truc, c'est ça, c'est d'accepter de comprendre et d'écouter ses guts et de les suivre. Parce qu'en fait, on peut pas passer sa vie à faire des choix rationnels si on n'est pas aligné avec. C'est-à-dire que ça va peut-être faire plaisir aux gens en face de vous si vous faites des choix rationnels, ça fera peut-être plaisir à votre patron, ça rassurera peut-être vos parents et puis votre compagne ou votre compagnon. Mais en s'écoutant au fond du cœur, j'ai l'impression, en tout cas, et j'ai l'impression que c'est le petit secret et que gardent bien tous ceux qui entreprennent et qui réussissent, etc. Et moi, ça m'inspire beaucoup, c'est d'écouter beaucoup plus son ressenti, de se faire confiance. Et du coup, c'est comme ça, naturellement, qu'on va aller sur la bonne voie, du bon travail, du bon lieu où on veut habiter, du type de vie de famille qu'on veut vivre, du type de loisirs qu'on veut faire, du type de consommation qu'on veut faire. Et donc, c'est d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de foncer.
Merci Ferdinand. Et voilà, l'interview avec Ferdinand est terminée. Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de vous faire rencontrer Ferdinand. La démarche de Chiloé, de micro-aventure est passionnante, assez peu connue encore en France. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir vivre une aventure extraordinaire en passant à peine le pas de sa porte, ça résonne particulièrement fort, hein, à ce moment de notre vie où nous allons devoir passer les 2-3 prochains mois, notre été en tout cas, à l'intérieur de notre territoire. C'est vrai qu'on peut passer ce temps-là en le vivant comme une frustration parce qu'on aurait rêvé des plages ensoleillées à l'autre bout du monde, de je ne sais quel pays. Et à la fois, ce que nous dit Ferdinand, c'est qu'en fait, c'est une merveilleuse opportunité de revoir sa relation au voyage, de revoir sa relation à l'aventure. Et puis, ce que je trouve aussi particulièrement intéressant avec Ferdinand, c'est qu'en fait, cette notion d'aventure, il l'a poussé à son paroxysme. Il y a des personnes qui, encore malheureusement, vivent le voyage, vivent les vacances comme une bouffée d'air qui leur permet de tenir tout le reste de leur année. Et en fait, ce que nous dit Ferdinand, c'est et pourquoi en fait on aurait besoin de serrer les dents, et pourquoi en fait on vivrait pas notre vie comme une aventure parce que on a décidé de s'écouter et que on met au cœur de notre vie familiale, amicale, entrepreneuriale, professionnel donc, ce qui fait vraiment qu'on se sente vivant. Allez, je vous dis moi en tout cas à très vite pour une prochaine interview, et puis je vous souhaite une excellente micro-aventure dès demain. Salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !